Bonsoir à tous, 100% rugby, le lundi c'est débrief jusqu'à 19h. Le lundi non, ça c'était débrief et c'était hier surtout. J'ai pas eu l'habitude de faire le lundi, ça va.
Quel début d'émission.
Et non, bah, le mardi c'est débrief aussi, il y a des choses à débriefer, ça tombe bien. Avec Yann Blanchard, avec Benoît Caballero, Yann Blanchard, community manager. J'ai dit hier à Jean-Baptiste Aligier qu'il était président de l'Aviron.
Oui, j'ai entendu.
Donc tu vois, j'en fais une par jour, ça tombe bien. Et Benoît Caballero, notre arbitre, consultant, amoureux du Biarritz Olympique. Salut à tous les deux.
Bonsoir.
Les poisons.
Bonsoir.
Allez, le rugby français a appris la disparition d'une de ses légendes, André Boniface, 89 ans, un style, l'élégance, le Johan Cruyff, certains diront du rugby français, un modèle aussi pour toute une génération à laquelle fait partie notre invité du soir, bien connu à Bayonne. Bonsoir Patrick Nadal.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de France Bleu Pays Basque pour revenir sur cette figure qu'est André Boniface. C'est important pour beaucoup de générations. Le BO, on en parlait, qui tourne une page, celle de l'ère Gavaldiger. Après 6 ans, Jean-Baptiste Aligier était notre invité hier dans 100% Rugby. On reviendra sur cette gouvernance. Les infos du jour, vous les aurez évidemment avec Camille Lopez, Maxime Machenoux ou encore Tevita Tatafou contre le 15 de France à Bilbao. Il y aura évidemment lui qui peut battre. Je sais que tout le monde en raffole. Et puis, retour sur l'élimination de l'Aviron Bayonnais en Challenge Cup, battu en 8e de finale à Édimbourg, 33 à 15. 100% Rugby, c'est jusqu'à 19h. Vous avez le programme, c'est parti.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby, avec Stéphane Garcia.
Donc Patrick Nadal qui est avec nous dans nos studios. On parle d'André Boniface. On va dire, quelques-uns diraient que vous êtes son fils spirituel, un descendant.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, j'ai commencé à jouer avec lui, j'avais 16 ans à peu près. Et on s'est suivi jusqu'à moi, à l'âge de 35 ans, on lui a arrêté, mais il était entraîneur, il était mon entraîneur. Alors, on était trop différents. C'est un passionné. André Boniface, si vous voulez, ça a été un professionnel avant tout le monde. Il s'entraînait tous les jours, il avait une rigueur pour la diététique, pour tout, l'opposé de moi, quoi. Et ça a posé des problèmes, sauf qu'on avait beaucoup de passion l'un pour l'autre, d'amitié. J'étais un peu le frère qu'il avait pu, un peu le fils spirituel, tout ça, mais j'ai passé le moment avec lui merveilleux. Et là, c'est beaucoup, beaucoup de merveilleux souvenirs qui partent, quoi. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Je suis allé voir plusieurs fois à Bayonne, il était à l'hôpital au service d'Arnaud Pachebat, là, et ça allait difficile, quoi. Alors, il me voyait, des fois, c'était l'émotion forte, quoi. Il me prenait la main, il me souriait. Après, il retombait un peu dans les, voilà. Et puis après, bon, ça s'est fini comme ça, ça pouvait plus durer, quoi. Mais c'est beaucoup, beaucoup de passion dans ma vie.
Comment expliquer cette relation que vous aviez pu tisser?
Ben oui, parce que quand j'étais jeune, je regardais jouer, et moi je pense que le rugby, on peut pas l'apprendre, il y a qu'à, il faut tout ça, ça c'est du vent. Le rugby, tu regardes, on parlait souvent de Cruyff, là. Moi j'ai toujours adoré Johan Cruyff, et les jeunes joueurs me disaient de foot, mais ils disaient, on le regarde jouer, on essaye de faire comme lui. Et Dédé Boni, je l'ai vu jouer, et je le trouve merveilleux, et il m'a plu parce qu'il avait de l'allure, il avait du style, il avait de la classe. Et ensuite, je vais jouer Jomazo, c'est un peu le même profil. Donc, c'est une question d'émotion, de sensation. Et après, toi, si tu as un peu de talent ou un peu de qualité, tu essayes de retranscrire ce que tu as vu. Mais je crois pas du tout à la formation par les AK, il faut tout le temps, ça c'est du vent. Après, il y a le travail, effectivement, mais au départ, tu l'as ou tu l'as pas. Et tu sais retranscrire un peu ce que tu as vu sur le terrain.
Juste avant de vous demander votre avis, Yann Cabaye, sur ce que ça pouvait représenter ou non, effectivement André Boniface, mais vous le disiez, Patrick, il était l'opposé de moi. J'ai retrouvé une citation dans laquelle, effectivement, André Boniface disait « Patrick avait les bonis dans sa peau, et qui plus est, je suis sûr qu'il avait un potentiel supérieur au mien, mais il ne s'est jamais trop rendu compte de ça, et que notre réussite reposait sur beaucoup de travail.
Bah, » Il me l'a dit combien de fois, ça c'est vrai, c'est... Non, mais c'était... Bon, j'ai aimé ma vie. Et alors, je crois que l'affinité et l'amitié, ce qu'il y a eu entre nous aussi, c'est que par un certain côté, je ressemblais un peu à Guy dans le côté aimer la fête, aimer la vie, comme bon, je serais pas au Pays Basque autrement. Et c'était, mais il avait quelque chose, et quand je le regardais, c'est vrai, j'avais, et il m'en voulait de pas mettre, de m'entraîner assez, de pas faire aussi assez, de pas avoir des trucs assez sérieux par rapport à lui, quoi. Lui, c'était, moi, c'était 2 entraînements par semaine, et c'était 2 entraînements par jour, quoi. C'était différent, quoi. Il avait des qualités quand même physiques un peu exceptionnelles, quoi. Il faisait 1m80, il aurait fait le décathlon, ça m'aurait pas surpris, quoi.
Yann, cette figure.
Pardon. Mais il fait partie de ces sportifs, de ces rugbyman, mais de ces sportifs qu'on n'a pas eu besoin de voir jouer pour savoir que c'est une légende. C'est-à-dire que j'avais eu la chance, on en rigolait cet après-midi, de l'interviewer il y a quelques années. Et j'étais, quand je l'ai interviewé, j'étais comme un enfant de 10 ans devant son idole. Et ça fait ça devant peu de sportifs en fait. Ouais. Il y a des fois on devient potes même avec des mecs qu'on a regardé à la télé, des rugbyman etc. Et cette personne là, comme peu, eh ben on l'interviewe et on est comme un enfant parce qu'on est en train de voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu jouer et qui pourtant est un idole, est une idole de tout le monde.
C'est ce qu'on appelle une légende.
Ouais, quoi. C'est ça, c'est pour ça que.
Et mais c'est pareil. Moi j'étais avec lui, je regardais. Alors une anecdote, un jour je m'entraînais, je jouais. Puis à un moment donné, on n'arrivait pas tellement, ça se passe pas très bien contre Brive. Puis à un moment donné, la chance, j'ai un ballon, je fais un coup, pam, 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 on va marquer. Et il y a un copain à côté de lui, toi, si j'appelle Patrick, il m'avait appelé, il m'avait engueulé. Mais c'est le hasard qui a fait que. Et lui, il croyait toujours, s'il me disait pas, faut faire ça, faut pas faire ça. Dans les vestiaires, il me dit, on a marqué 3 essais, mais si t'avais été plus vaillant, on aurait marqué 4. En fait, c'était toujours le côté, mais, bah, on se chinait, mais c'était de la passion, de l'amitié, voilà, c'était. Sa famille, ce sera des choses toujours extraordinaires. Alors, je parle un peu, hein, parce que je suis un peu passionné.
Il n'y a pas de souci.
Quand on partait, des fois, je dis, bon, j'avais des affaires à Mont-de-Marsan, je vais dans l'essence, tout le monde. Et je lui demandais, bon, Patrick, tu viens m'en jouer, je viens, mais il faudrait qu'il boive un coup avec moi. Quand. Ah non, pas question, mais je ne viens pas. Il restait, mais c'était un jeu entre tous les deux. Quoi. Mais je regardais toujours avec beaucoup de vénération quoi, et de passion. Sauf quand on arrive, je lui dis, écoute, ou tu bois, ou je ne viens pas avec toi. Un coup, excusez-moi.
Cabaye. Sur André Boniface.
Non, mais je rejoins un peu Yann. C'est une personne que j'ai pas vu jouer, donc je l'ai entendu de la parole de mon grand-père, de mes oncles et tout. Et ça fait partie des légendes de ce sport, comme d'autres, comme Blanco ou quoi que j'ai jamais vu jouer, mais qu'on entend parler. Et le mot qui revient de ce que je lis depuis plusieurs heures, c'est la classe, quoi. Donc
la classe et la passion. C'est difficile à l'entendre, ça, que des joueurs n'ont pas la passion de ce sport. C'est aujourd'hui, c'était pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui c'est des fois leur métier tout simplement. Et quand je l'ai interviewé notamment, et je crois que la vidéo fait 16 ou 17 minutes. Et en fait, je pense qu'on éteint la caméra.
T'es pas en train de faire ta pub, là.
Non, c'est il y a 7 ans et ça n'existe plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que la caméra s'éteint et on continue à parler rugby pendant une heure et on est en train de continuer de le regarder avec des yeux d'enfant. Et c'était au musée à Montfort-en-Chalosse parce qu'il y avait une rétrospective sur.
D'où il est originaire d'ailleurs.
Ouais, oui, c'est ça. Ben il avait sa maison. De toute façon, c'est simple. Je lui demandais comment il est venu au rugby. Il me dit, écoute, j'avais la maison la plus proche du stade et à Montfort, si tu es pas. Bon, excusez, c'était un peu un trait d'humour, mais si tu n'es pas culturel. Voilà, tu joues au rugby. Donc voilà, et t'éteignais la caméra et on s'était fait même engueuler parce que la rétrospective commençait. En fait, nous on continuait de parler en plein milieu de rugby comme si de rien n'était. Et voilà.
Quand vous parlez de passion, c'est vrai, c'est que des fois il m'appelle après chaque match et le rugby a changé. Julien André, le rugby a changé. C'est différent, c'est pas mieux, pas plus mal, je sais plus. Putain, je m'arrête, André. Ça fait des fois que tu me dis la même chose. Oui, mais non, mais c'est comme ça. Les centres, ils percutent, ils rentrent dedans. Toi, tu contournais, nous, on contournait, et il se percute. Mais c'est comme ça, c'est le rugby qui a changé, tu peux rien. Oui, mais non. Alors,
et le maître mot aussi, souvent, c'était, quand il parlait de rugby, c'était plaisir. Ah, il disait que rien qu'avoir le visage d'un joueur pas souriant, mais lui, ça l'intéressait plus. Du coup, il avait envie que les joueurs prennent du plaisir parce qu'il disait que sur le visage se reflétait comment le joueur allait jouer, allait s'amuser, justement, à faire ce sport-là.
Mais c'est vrai, mais moi, je le redis encore, je me répète, mais André, moi, je regardais, je me suis imprégné de tout. Mais après, à un certain niveau, tu peux pas apprendre. Tu regardes, tu peux retranscrire ou pas, t'es capable ou pas. Mais après, moi, je dis, alors, en rigolant, je dis, mais tu m'as rien appris, toi. Je parle de tête. Pourquoi tu dis ça? Mais non, je t'ai regardé, tu m'as tout appris quand je t'ai regardé. Mais après, sur l'entraînement, tu m'apprenais rien. C'était entre nous, ça, cette année.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
On est avec Yann Blanchard, Benoît Caballero et surtout Patrick Nadal, figure du rugby montau ancien, joueur pour revenir sur cette légende, André Boniface. Yann, tu disais l'avoir interviewé, André Boniface, c'était il y a quelques années, 7 ans, je crois.
J'avais des cheveux, oui.
je voulais pas te chambrer tout à l'heure, mais quand t'as dit ça fait longtemps, je me suis dit, j'ai failli te dire, et ça se voit sur la vidéo.
Ouais, c'était 2016 ou 2017. On avait vu cette rétrospective, on s'était mis en rapport avec ceux qui organisaient ça, et on avait dit, tiens, au passage, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite interview et qui s'est transformée en grande interview où je parle pas dans la longueur, pas par le talent.
Et dans cette interview, et ben justement, il y a un petit moment sympa, c'est à la toute fin, c'est quand André Boniface évoque son amour, son affection, en tout cas pour l'aviron bayonnais.
Bayonne, c'est mon club préféré depuis ma jeunesse. J'ai signé à Bayonne, j'avais 20 ans, Je ne suis jamais parti. J'étais maintenu dans l'armée. Je suis resté 50 ans de plus à Mont-de-Marsan. Ça a été un tournant dans ma vie. Mais Bayonne, c'était le club de Dauger. C'était un stade magnifique sur lequel on pouvait jouer, faire des passes croisées, des renversements. Et c'était mon club préféré toute ma vie. Donc je regarde avec plaisir Bayonne. Mais je voudrais qu'Etcheto, quelquefois, il pense que ça va être difficile pour lui.
Voilà. Bon, mais merci beaucoup, monsieur Boniface.
Avec plaisir.
Et j'invite tout le monde à venir à cette exposition. Merci.
Oh, cette petite
belle voix.
Non, mais quand je vous dis que t'es un enfant,
voilà. Il était pré-ado. À la fin, on sent que voilà, je suis pas à l'aise.
Oui, non, mais ben, ça montre aussi le respect, j'imagine, qu'il y avait face à cette figure.
Non, mais voilà, c'était une journée incroyable.
L'émotion.
Ouais. Et pour
c'est quand même marrant ce qu'il raconte, là. C'est-à-dire que, effectivement, il y a cette figure du stade Montois, mais il dit, il l'assume, moi, Bayonne, j'ai toujours eu une affection particulière pour tout ce
par rapport à Jean Dauger. C'est Jean Dauger.
Allez-y, Patrick, je vous en prie.
Cadet, tout jeune et cadet, je jouais à Bayonne, j'avais 15 ans. Hein. Et à un moment donné, il y a M. Carré, après un match, qui vient me voir, il me dit, voilà, c'est pas mal ce que tu fais, c'est bien. Je reprends, et je dis à ces gens, mais qui c'est? C'est M. Jean Dauger. Dédé lui avait dit, il va voir, il y a un gosse, un cadet, on en sent, qui est pas mal, va le voir, voilà. C'est marrant, hein, comme quoi ça prend. Voilà.
Yann.
Non, c'est une anecdote sur cette journée de tournage. C'est qu'en fait, on était tellement en stress, j'avais un associé à l'époque, qu'on a tapé Montfort sur le GPS, et il y a Montfort dans le Béarn.
Ah, que vous avez fini là-bas?
Et on arrive là-bas, et on cherchait ce fameux, parce que c'était dans un château à Montfort, cette rétrospective. Jusqu'au moment, on s'est rendu compte que, ben, on s'était trompé de Montfort. Donc, on est arrivé une heure et demie en retard, et bon, voilà, on se disait, bon, ben, il va partir, ou il va nous envoyer chier, comme un joueur professionnel d'aujourd'hui pourrait envoyer chier si jamais t'arrives une heure en retard. Et non, au contraire, ça lui posait pas de problème. Donc voilà, petite anecdote au passage sur cette journée de stress, mais de plaisir.
Patrick Nadal, André Boniface, on en parle encore aujourd'hui, il y a un héritage. Comment l'expliquer?
Non, parce que je crois que c'était au départ qu'on lançait ce... Il faut savoir qu'un garçon comme Antoine, enfin un homme comme Antoine Blondin, on était passionné de Boniface. Kléber Hélène, c'était passionné. Jean Lacouture était passionné. Enfin, des grandes plumes ont été passionnées, donc c'est pas par hasard. Après, et après il y a un garçon aussi, enfin un homme, pardon, monsieur, qui était le président de l'Aviron Mayonnais, qui était le sponsor de l'Aviron Mayonnais, qui a adoré André Boniface, qui a adoré Serge Blanco, qui a adoré Jean-Pierre Rive. C'est monsieur Kampf, quoi. Donc ça veut dire... Et Kampf nous a raconté... Je déjeunais avec Dédé, avec lui, qu'un jour, il regardait le match à l'époque, il n'avait pas créé sa société, derrière le poteau, il venait voir jouer André Boniface. Hein. Quand on sait ce qu'est devenu M. Kampf, c'est joli comme histoire. Quoi, hein.
Ouais, voilà. Comme quoi, il y a peut-être un peu d'André Boniface dans le succès, dans ce qu'a apporté derrière effectivement Serge Kampf dans le rugby français.
Sure. C'était une passion pour lui. Kampf, il avait Blanco, Dédé et Jean-Pierre Rive, voilà.
On parle souvent, on évoque souvent le French Flair pour André Boniface. Ça fait partie de ses noms. Pour nous, pour Yann, pour Cabaye, c'est peut-être pour la génération qui ne l'a pas vu jouer. Il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent. C'est difficile d'imaginer le joueur qu'il pouvait être sur le terrain. Pour vous,
c'est difficile à définir. Après, c'est un mec qui faisait un homme qui faisait 1m80, 85, qui devait faire 88, 89 kilos. Je vous dis, il aurait pu faire le décathlon, il courait le 5m30, il courait le 400, puis il courait droit, le buste. C'est Jomazo. Après, je sais pas si vous vous rappelez Jomazo. Voilà, Jomazo qui était un des plus beaux pour moi, avec Dédé. Voilà, si ce n'est le plus beau, voilà, c'était le même style, le même esprit. Vous avez la petite ouverture le seul actuellement qui me fait un peu rêver. La petite ouverture de Toulouse, le petit
Intamac.
Intamac, voilà. Et à Intamac, je retrouve un peu cette allure pour la finale en Coupe d'Europe, quand il fait ce coup, il n'est pas bon pendant 70 minutes, il a un coup de génie, voilà. Mais c'est ça. Ça, pour moi, ça ressemble à ce qu'était André, ce qu'était Jomazo, ce qu'était Codor, ou est-ce que je veux dire, dans l'émotion, dans le style, voilà.
Bien.
Oui, c'est sentir le rugby, Patrick le disait, c'est...
Sentir le rugby, et puis il a l'élégance, parce que ça suffit pas.
L'image est belle d'Entamac, parce que sur un coup d'éclat, voilà. et pourquoi il fait penser aussi à Bonis, parce qu'il a ce port haut, un peu droit, voilà, ça y ressemble beaucoup. Si on fait le rapport avec les centres actuels, je pense qu'il a pas dû beaucoup se régaler avec Danti Ficou depuis des années en équipe de France.
Je m'appelais, j'ai eu André, mais tu vas pas me lire à chaque fois, c'était comme ça. Ouais, mais quand, moi en gosse, j'ai 15 ans, 14 ans, je regarde José Boni, t'as un coup de, bah, tu ressens une émotion forte, quoi. Hein. Et j'ai vu jouer Joe Mazo, c'est pareil, comment il faut, c'est question d'émotion après. Sinon, tu auras les mecs qui s'entraînent tout le temps, qui sont comme ça, ils font tous 130 kilos, on est, bon, tu, je dis pas que c'est mal, je dis c'est différent.
On parlait de, c'est différent.
On va faire venir Patrick plus souvent parce que je ne cesse de dire.
Et pourquoi pas?
Je ne cesse de parler d'émotion, même quand avant la Coupe du Monde, l'équipe de France a enchaîné deux ans sans défaite ou comme ça. Elle me procurait pas d'émotion et c'est pour ça que j'étais critique envers ce jeu-là. Et c'est vrai que du coup, bon, dans cette fameuse interview, je me réfère à ça parce que c'est la seule fois où j'ai eu la chance de le voir, quand je lui demande s'il est toujours passionné par le rugby actuel, et c'était déjà il y a 7 ans, et le rugby a évolué en 7 ans.
Oh oui.
Il y a 7 ans déjà, il disait clairement non. Voilà, il s'embête devant les matchs, ça ne lui correspond pas à ce qu'il attendait.
Mais on parle de cette rigueur, il avait un côté dur, et je parle de l'homme aussi, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement le joueur, le technicien, et puis l'encadrant, l'éducateur, et puis ouais. Derrière, l'homme était pas toujours facile, il avait un caractère.
Hein. Non, oui, alors c'est vrai. Alors surtout, les anecdotes, une fois tu joues, il y a tout le monde disait, je jouais contre vous, je jouais contre. Alors il était casse-pomme, je lui ai dit, mais réponds pas. Et le gars, il dit, oui, vous avez. Alors lui, il arrive à cette personne, il dit, mais on a joué où ensemble? Et bien là, ah non, c'est pas possible, j'ai jamais joué. Enfin, il supportait pas ça. C'était comme ça, il était un peu psychorigide là-dessus. Hein.
Et vous avez une anecdote peut-être qui vous revient, Patrick, avec oui, j'imagine qu'il y en a des tonnes.
C'est difficile. Non, ce qui était très très important, c'est quand tu jouais, ils voulaient toujours qu'on joue. Il fallait qu'on relance. Je m'attends à un moment donné, on avait un peu ras-le-bol. Il était l'entraîneur. Et il dit, c'était difficile. Tu es fatigué. Je lui dis, non, André, actuellement, on peut pas, quoi. Et quand j'ai commencé à rejouer, quand j'ai joué, quand il est revenu jouer avec moi, c'est lui qui jouait l'ouverture. Il y avait Pierre Castagnade, le papa de Thomas, Michel Herrera, il y avait des beaux joueurs. Alors, il nous donnait le ballon, lui, il lançait le jeu, toujours avec la même vision. Mais nous, après, derrière, il fallait accélérer, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et à un moment donné, je dis, André, attends deux secondes, et j'ai fait trois. Non, mais ça a toujours été magique, quoi, voilà. C'était toujours fabuleux.
On parle de la figure qu'effectivement André Boniface, pour le coup, Thomas Vinclair avait aussi eu au téléphone hier sur France Bleu Pays Basque, Francis Leta, figure de Bayonne, ancien joueur, entraîneur 62 avec l'aviron bayonnais, et il avait une anecdote qui était sympa, c'était de dire que sur la fin de carrière, alors qu'il avait 40 ans à peu près, André Boniface, lui débutait sa carrière et qu'il se retrouve face à lui. Et qu'il est mort de peur parce que ben c'est son idole et qu'il a vu gamin et tout ça, et que alors que c'était un joueur qui jouait d'habitude, bien là face à l'idole, il était mort de peur et du coup il n'avait fait que taper et Boni lui avait dit hey, tu vas jouer l'état, et du coup il avait appris la leçon du maître comme ça sur une rencontre.
Je sais pas, mais c'est difficile quand t'as des monuments comme ça. Je reviens toujours à Cruyff en foot que j'adorais. Quand t'as des monuments comme ça, c'est pas le hasard que tu es en face. Quand t'es un passionné, ça te marque. Moi je vois jouer une anecdote tiens intéressante, Mont-le-Marsan-Perpignan, et à Mont-le-Marsan il y a un jeune de Perpignan, un blond beau mec tout pour lui, il dit tu as 20 ans, il dit tu fais un cadrage de ballon à Dédé Boni. Dédé Boni ne s'attendait pas. Dédé, on ne le provoquait jamais en attaque. Et l'autre, il fait un cadrage de ballon, l'ailier ne glisse pas, il y a un essai, bref quoi. Et donc Dédé Boni engueule l'ailier qui n'a pas glissé, mais l'ailier n'était pour rien. Et ce joueur, c'était Joe Mazo.
Ouf.
Alors ça a été... ça n'est jamais arrivé que... Non, mais Joe l'a provoqué. Ça n'arrivait jamais que les joueurs, à lui, le provoquent. Et Joe, qui était venu, Joe Mazo, il était arrivé, il a fait un garage de bord, je lui ai dit, alors c'est dur, là. C'était magique, quoi. C'était... Enfin, deux phénomènes, quoi.
André Boniface... figure du stade Montois, dont le stade Boniface, et c'est vous Patrick Nadal qui l'avait ouais. Changé le nom de ce stade là.
Tout à fait, quand j'étais président, on a pris le club en 96, j'ai repris le club, on était en fédéral 3, on est remonté, puis ça a bâti en top 16, après top 14 à l'époque, et je pouvais pas ne pas donner ce nom à ce stade, mais c'était moi au départ que j'avais fait du vivant, je voulais pas, donc on a fait le stade de Guy Boniface. Ensuite, après, avec grâce au maire de Mont-le-Marsan, Philippe Abeillerie, parce que donner le nom qu'André, c'est vivant, non, ça m'allait pas, quoi. Donc c'était Guy Boniface, c'est une référence. Et bien sûr, quand André, après, a fini ça il y a longtemps, on a fait passer le stade André et Guy Boniface, le stade des frères Boniface.
Ça fait quelque chose quand on y passe devant ce stade et qu'on voit ces noms?
Moi, c'est différent. J'ai joué pendant 15 ans à Mont-le-Marsan, donc j'ai des rapports un peu différents, quoi. Je vois la sculpture, quand on fait l'inauguration, qu'on dépose la sculpture de Guy. De Guy, hein. C'est un truc magnifique, c'est, bah, après, c'est plein de choses, après, c'est plein de souvenirs, après, ça remonte.
parce qu'on risque d'avoir une émotion assez palpable ce vendredi là pour la réception du Biarritz Olympique à 21h à Mont-Deux dans ce stade mythique.
Partout.
Mais c'est vrai qu'à là, dans la capitale, dans sa capitale, dans sa ville, finalement, ça risque d'être quelque chose d'assez extraordinaire à vivre.
Mais j'y suis, enfin, bien sûr, j'y serai, mais bon, c'est vrai, ouais, c'est un truc un peu, c'est fou, quoi, hein, sur Biarritz, par rapport à Biarritz, par rapport à Mont-Orsan, par rapport à André, c'est un moment où je sais pas comment ça sera, hein, mais ça va être très, très, très intense, plein d'émotions, de passion, d'émotions.
Yann.
Oui, non, sur le mot légende, je disais avant que on n'a pas besoin de l'avoir vu jouer pour savoir que ça en est une. Et aujourd'hui, depuis l'annonce de son décès, bien sûr que les proches, il y a une tristesse immense. Mais pour tous les amoureux de rugby, moi, je me délecte. J'ai un sourire à écouter et à lire tous les papiers justement sur qui était André et écouter Patrick ce soir. Donc c'est en ça que voilà, c'est une légende de ce sport du rugby, mais même du sport national.
Et c'est
au-delà du rugby, on sait qui est André Boniface.
C'est tellement, mais encore une fois, je vous dis, il s'entraînait tous les jours, truc. Des fois, j'arrivais à l'entraînement, je me faisais engueuler sans arrêt, j'ai dit, mais quand même, et puis après, il pouvait plus trop me dire, parce que j'étais le patron de trois quarts, tout ça. Mais il était hors norme, quoi. Il y en a plus des mecs passionnés toute la vie comme il a été. C'est sur la fin, quand on voit les matchs, effectivement, actuellement, qu'il a commencé à taper en touche, excusez-moi l'expression, mais c'était la vérité, quoi. Il voulait plus parler après, il disait, oui, c'est différent. Il commence à dire, excusez-moi, des études ici différentes. Ne dis pas que c'est mal vis-à-vis des autres. Tu n'as pas trop le droit, à un moment donné, de dire c'est le rugby qui a changé, qu'est-ce qu'il faut faire.
Et c'est pour ça que c'était important de revenir sur cette figure du rugby montois, du rugby français. Merci Patrick Nadal, d'avoir été avec nous dans 100% rugby.
C'est moi qui vous remercie. J'ai passé un très bon moment. C'est bien. Puis avoir des puristes, c'est bien. Même si les cartes bleues, ça fait rien.
C'était la mésaventure de l'année dernière.
Ouais, mais j'étais avant-gardiste, c'est-à-dire qu'ils se sont fait choper cette année, mais moi, ils m'ont piqué ma carte bleue l'année dernière.
C'est vous qui êtes super. Ça fait plaisir de voir les passionnés. Vraiment, ouais. Bravo.
Eh bien, n'hésitez pas, vous êtes à côté, de toute façon. Donc, si un jour vous avez envie d'ouvrir la porte, de toquer, vous êtes à la maison ici.
C'est gentil, merci beaucoup.
Encore une fois, merci. 100% rugby continue.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby, avec Stéphane Garcia.
Qu'il est pénible, Yann Blanchard. L'info est tombée en fin de semaine, la session du BO par le clan Gavaldiger au trio composé de Sean Hegarty, Philippe Van der Merve et Marc Bagé. La fin d'une ère de 6 ans pour Biarritz. Messieurs, que retenez-vous de ce chapitre pour le BO? Benoît Caballero, amoureux du rouge et blanc. Bah oui.
Mais ce que je retiens sur les 6 ans, c'est la montée en top 14.
Le 12 juin 2021.
Exactement.
T'étais à Aguilera.
Exactement, c'est pour rappeler un souvenir à Yann Blanchard, et un beau souvenir pour moi. Et c'est l'un des seuls souvenirs, en tout cas sous cette ère, que je retiendrai.
C'est vrai, Yann?
Non, mais oui, positivement, forcément, il y a cette montée. Positivement, je trouve que, notamment au niveau des joueurs, je sais pas s'il était seul ou pas, mais il a fait du bon boulot. Il a été chercher des joueurs qu'on connaissait pas forcément. Il a été chercher des étrangers qu'on connaissait pas forcément et qui ont...
Je parlais d'étrangers qu'on connaissait pas forcément.
Jonas.
Non, alors, ça c'est pour les jeunes. Et ouais. On pourra en évoquer, mais il y a eu aussi Gavin Stark ou Adam Knight.
Ouais. Non, c'est, il a
confirmé.
Il a été bon là-dedans. Je l'ai toujours dit, même dans les périodes noires.
Il y avait des noms comme Armitage, Francis Ailey, Henry Spaid.
Oui, bon, ça c'est un peu plus facile. Et puis c'est un peu plus des joueurs qui n'ont pas performé, notamment, je pense à Henry Spaid.
Ouais, mais oui, il a gardé.
Parce que tu buvais des coups à lui à Biarritz.
Non, mais il a gardé pour le coup. Pas mal de joueurs dans le vestiaire ont été marqués par la présence d'Henry Spaid et par le côté grand frère qu'il a pu avoir pour beaucoup.
Et après, forcément, le côté négatif, il y a eu quand même 6 ans de chaos. Il y a eu avec le public, avec la maire de Biarritz, avec beaucoup beaucoup de monde. On peut pas passer outre ça. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît?
Avec tout le monde, quoi.
Oui, voilà.
Hier, il s'est encore défendu en disant que s'il a fait ça, c'était parce qu'il avait un club à défendre et des salariés, une centaine de salariés, un club à assurer, ou en tout cas un avenir pour le club à assurer.
Et c'est surtout qu'il parlait pas de club, il parlait surtout de sa société, lui. C'est ça qui est un peu dérangeant.
Oui, parler de la société,
qui est le club. Ça reste une SASP, donc c'est une société anonyme privée.
D'accord, qui aurait pas marché sans l'amateur, il a quand même tout divisé.
Ah bon, c'est lui qui va attaquer le plus fort. Et oui, ce que je retenais aussi, malheureusement, j'ai parlé de fracture avec les supporters, c'est aussi fracture avec ceux qui ont fait le bonheur de ce club ces dernières années, ce que on a appelé les Galactiques, puisqu'il s'est embrouillé un peu avec tout le monde. Et je pense que tout ça a gâché tout ce qu'il faisait de bien, puisque moi je trouve que quand il est arrivé, l'animation autour du stade, dehors, etc., moi je trouvais ça plutôt très bien. Non, je joue pas de violon, Stéphane, c'est pas fait de faire ça. Non, je l'ai toujours dit que il avait ramené ça. Il y avait eu l'histoire des écussons des clubs amateurs à chaque match sur le maillot. Je trouvais ça top. Il y avait une buvette laissée aux clubs amateurs aussi. Je trouvais ça top pour s'ancrer dans le territoire. Mais je vais pas non plus jouer que du violon. Je trouve que tout ça était du coup entaché par ses prises de position, ses insultes permanentes, ses insultes envers tout le monde. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que oui, c'était eux qui mettaient tout l'argent, mais quand il disait le club, il appartient pas aux supporters, il appartient pas aux Galactiques, il nous appartient à nous parce que c'est nous qui payons. Bah là, tu te coupes. Là, c'est pas un problème ouais, de personne. Rien, tu te coupes du tout.
Alors une quinzaine de millions lâchés, c'est sans doute peut-être un peu moins parce qu'il y avait en plus la période Covid. Donc à ce moment-là, bah, c'est pas tant l'argent que t'as réussi à dépenser ou plutôt que t'as gagné à ce moment-là. Mais quand on te dit il a permis au club d'exister 6 ans de plus. Est-ce que ça reste pas une vérité? Parce que le club, quand il arrive, il est relégué en Fédéral 1.
Moi, ça j'y crois pas. C'est tout à son honneur d'avoir...
Bah, financièrement, si.
Mais c'est tout. Je vais répéter ce que je voulais dire jusqu'au bout avant que tu me coupes. C'est tout à son honneur, par contre, oui, d'avoir mis de l'argent à fond perdu, que ce soit 15, 10 ou même 1 million. Enfin, voilà, tu perds de l'argent quand tu investis dans le rugby. Donc, c'est tout à leur honneur, pas à son honneur. À leur honneur, à la famille Gave et à LDG. Mais par contre, c'est ce que j'avais dit là pour cette vente-là. Je ne vois pas le Biarritz Olympique, club historique avec son histoire, Biarritz Pays Basque, Biarritz aéroport, si tu es vendeur, je pense que un jour là tu as un acheteur. C'est ce qui s'est passé là puisque il y avait pas que Sean et enfin ce trio qui se présentait, il y en avait d'autres puisque
ça, c'est ce que dit la mairie effectivement et notamment la piste irlandaise qui n'a pas été
à l'époque quand il prend le pouvoir et on se souvient qu'il le prend sur un parking parce que les anciens ne sont toujours pas vendeurs. Et le problème c'est que pour avoir trouvé des acheteurs, il faut être vendeur et ils l'ont jamais réellement été. Donc oui, bravo à eux parce qu'ils ont fait perdurer ce club, il y a pas de souci, mais je pense que si ça avait pas été eux, ça aurait pu être d'autres.
Et il a mis beaucoup d'argent parce qu'il a il faut le dire aussi quand même, les gens qui étaient pas d'accord avec lui, qui étaient des sponsors, il les a mis dehors comme il fallait aussi.
Après, est-ce que sur la question du stade, par exemple, lui, il te dit mon projet tient sur un truc, c'est le stade, et depuis qu'il est arrivé, ça a pas avancé, ça a jamais avancé. Est-ce que ça, on peut lui imputer?
On peut pas lui imputer un
élément. Par contre, maire et demi, puisque c'était la fin du mandat Vanak, ouais. Et derrière, Maïdar Rosselli est arrivé.
Mais il a fait un rapport avec Bayonne, avec Dax, avec Pau, qui a refait son stade. Donc
toutes les villes du Sud-Ouest.
Toutes les villes du Sud-Ouest. Et il a beau dire que ce n'est pas sa personne qui aurait dû poser problème, c'est l'institution, pas de souci. Mais l'institution, ne tenant que sur la famille Gave et Alger, quand les institutions vont mettre les chiffres qu'on a entendus, c'est-à-dire 15 millions et la famille Gave et Alger 15 millions, si les institutions mettent 15 millions, il faut être sûr que les mecs vont pas partir en plein milieu des travaux alors qu'ils sont censés mettre 15 millions. Ils ont menacé de déposer de bilan tous les 6 mois, ils ont menacé de délocaliser tous les 6 mois. Voilà,
c'est un rapport de force aussi avec la mairie. Ouais.
Ça, c'est sûr et certain qu'en tout cas, la mairie et les institutions et l'agglo, etc., n'allaient pas dire « ben oui, on met 15 millions sur la table », alors que les 15 autres millions étaient loin d'être sûrs d'être mis au final, puisque trop instable pour ça.
Là, tu vois, je suis habitué au lundi. Mais parce que t'as un avis, forcément, sur la question.
Non, mais c'est exactement ce que je disais, c'est que, à vouloir être tout seul, il s'est mis dans la mouise tout seul, parce que, après, il voulait partir tous les 6 mois, comme dit Yann, et il a perdu.
Allez, le BO qui se rend en Mont-de-Marsan vendredi soir pour la 26e journée de Pro D2. Non. À 21h, un match qui sera évidemment à vivre et qui sera particulier. Ce sera vivre sur France Bleu Pays Basque avec la disparition d'André Boniface. 100% rugby, on passe aux infos du jour.
100% rugby, les infos du jour.
Vous réagissez pas, c'est comme vous voulez. La première, c'est Lopez, Machenot, Tatafou qui vont jouer contre le 15 de France, ou un 15 de France en tout cas. Les trois joueurs de l'Aviron Bayonnais qui feront partie d'une sélection mondiale et qui affrontera les Bleus le 22 juin à Bilbao. Il y aura aussi le Fidjien Semid Radradra de Lyon, les frères anglais Mako et Billy Vunipula. C'est ce qu'a annoncé la Fédé de rugby, un match de gala donc qui précédera la tournée estivale des Bleus en Amérique du Sud, où ils affronteront l'Argentine deux fois, puis l'Uruguay. Et donc en attendant de savoir quels sont les autres joueurs qui composeront cette équipe entraînée par Ian Foster, l'ancien entraîneur des Blacks, des All Blacks, eh bien les billets sont déjà à vendre.
Je m'en fous.
Tu t'en fous?
Mmh. Un peu aussi.
Ok, allez, on passe à la suite. On disait donc André Boniface, on en parlait en première partie, une minute d'applaudissement qui sera respectée dans tous les stades, sur tous les terrains de Pro D2, logique. 26e journée de championnat en plus, on le disait qu'il se terminera avec un joli clin d'œil du destin, avec ce choc entre Mont-de-Marsan et Biarritz dans ce stade Guy et André Boniface. Mine de rien, c'est quand même un sacré moment et beaucoup de joueurs sont rentrés dans l'histoire, peu sont rentrés dans la légende. C'est ce que souligne Jean-René Bouscatel, le président de la Ligue. Il incarnait l'élégance tant sur le terrain qu'en dehors.
Oui, mais de toute façon, quand on parlait de légende tout à l'heure, il y a un truc qui ne trompe pas, c'est que tous les clubs ont communiqué devant la tristesse d'avoir perdu ce monsieur, cette légende du rugby. Donc c'est normal que de faire une minute d'applaudissement et arrête de souffler en me disant qu'il faut que je fasse court. Merci.
Non, je ne soufflais pas. Et puis pas la troisième info, ici, okay. La troisième info, on en profite de ta présence, Kaba, et toi qui arbitres en national pour
le moment,
une personne national. Poursuivie après des menaces injurieuses sur les réseaux sociaux envers un arbitre World Rugby qui a annoncé avoir identifié un individu localisé en Australie dans le cadre de cette affaire. Toutes les informations ont été transmises à la justice australienne. Des poursuites judiciaires ont été engagées. L'auteur a été reconnu coupable d'utilisation de services de communication en ligne à des fins de menaces et de harcèlement. World Rugby qui a indiqué également envisager de sanctionner cet individu en l'interdisant de se procurer des billets pour tout événement sportif organisé donc dans le monde du rugby. Et apparemment, d'autres affaires sont en cours dans 5 juridictions.
Ben je l'apprends, mais c'est une avancée, donc c'est déjà pas mal. Après, c'est de plus en plus sur les réseaux sociaux qu'on reçoit, bon moi à mon petit niveau, pas du tout, enfin beaucoup moins en tout cas, des menaces, des insultes. Mais on a eu des arbitres ici qui sont venus, qui se sont fait insulter, qui ont eu aussi des menaces sur Facebook ou quoi. Donc oui, c'est une avancée, c'est bien que World Rugby s'y penche.
Yann, ça le fait rire.
Non, toi, apparemment, c'est les seuls messages insultes, ça a été localisé dans le sud des Landes, du côté de Tyros.
On embrasse les Tyros qui nous écoutent et tout le sud du
Landes. Fais gaffe, ils viennent te choper, toi, sur Facebook.
Oh, bah, moi, j'en reçois. Après, bon, je devrais pas dire ça, mais.
Yann Blanchard, Jean-Baptiste Aligé, même combat. C'était les infos du jour. On revient pour le qui peut battre.
Lui.
Place au qui peut battre, vous en avez l'habitude de qui peut battre Yann Blanchard ou Benoît Caballero. On a un auditeur avec nous, Alexis Salaméry, qui nous appelle depuis Tardette. Bonsoir Alexis.
Oui, bonsoir à vous.
Comment ça va?
Très bien, et vous?
Très bien, très bien. Supporteur de quelle équipe?
Ah, moi je suis un pur avironard avec Yann Blanchard, moi.
Oh, ouais, c'est terrible. On va en parler de l'aviron dans quelques minutes, et notamment de la fin de la Challenge Cup et de cette défaite 33-15 à Édimbourg qu'on a vécu ensemble sur France Bleu Pays Basque. Le qui peut battre? Vous sentez qui, Yann Blanchard ou Benoît Caballero?
Alors, comme je suis moi-même arbitre national de handball, je vais laisser un arbitre de chaque côté, donc je vais choisir Yann Blanchard.
Ah, donc c'est 2-1 contre Benoît Caballero, on va pas se mentir, je le sens pas du tout là.
C'est une manière de dire qu'il a pas envie de perdre quoi.
Attends, j'ai Thomas Vinclair qui est juste à côté.
Viens perdre Thomas.
Qui est journaliste à la rédac. Oui, non, il y a pas de souci, tu viens. Salut Thomas et ravi, merci parce qu'il faut renforcer l'équipe avec Benoît Caballero.
Je vais comme je peux.
Ça c'est un renfort ça.
Oui, je gagne juste quand les règles sont claires.
Allez, on y va, faut se lancer. La première question, on parlait d'André Boniface.
On attend la fin de la question ou pas?
On attend la fin de la question s'il vous plaît. On attend la fin de la question.
Oui.
André Boniface, combien de sélections avec 48. Le 15 de France?
Il n'a pas attendu l'affaire.
Il n'a pas la fin.
Ouais, 1-0 pour nous, c'est bon.
T'as dit combien?
48, j'ai dit.
1-0 pour nous. Il n'a pas attendu l'affaire.
Allez, je suis obligé de la donner à Yann.
Bon, mais 1-0.
Responsabilité.
1-0.
Allez, c'était combien?
C'était 48.
C'était 48, mais il a répondu à la fin.
Pas les 60.
C'est dans la poche.
Pas les 60, effectivement, dont vous.
Et combien de tournois des 5 nations, du coup?
Non, c'est un fou, 1-0.
On va aller vite, messieurs.
Oui.
Deuxième question, c'est une question en chair. On jouait ce week-end la Champions Cup.
Oui.
Combien de clubs qui se sont qualifiés pour les quarts de finale vous pouvez me donner? Il y en a 8, c'est les quarts de finale, donc il y en a 8.
8?
Alexis, on vous aime bien, mais là, en étant à distance, c'est impossible.
Mais si, il peut donner 8. Il peut les donner, les 8.
À toi, Alexis.
Oui, quoi?
Faut les donner, les 8.
Ah, alors, Leinster.
Toulouse, Bordeaux, La Rochelle.
Oui, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle. Okay. Voilà.
Leinster.
Ouais.
Après, nous avons les Sharks.
6. Non,
Charles, eh ben, c'est non, ils sont pas. Allez, c'est perdu. C'est perdu. Point pour effectivement. J'avais fait les 8. Toulouse, Exeter, l'UBB, les Harlequins, Leinster, La Rochelle, Northampton et les Bulls.
Northampton et les Bulls.
Donc un partout.
Et les Sharks. Ah, mais la Rochelle a gagné aux Sharks.
Mais non, mais toujours pas. Les Sharks, c'est un challenge.
C'est un challenge. Ils affronteront, ils devaient affronter l'aviron bayonnais, mais finalement, ce sera une autre équipe, ce sera Edimbourg.
Ah, oui, voilà, c'est ça, j'ai confondu.
Oui, c'est pas grave, c'est pas grave.
Et la troisième et dernière question. On laisse la fin de la question, s'il vous plaît, avant de répondre. Troisième question. On évoquait Jean-Baptiste Saldigier il y a quelques minutes. Ça va aller vite. Il a remporté combien de derbies?
3.
Il a, ben voilà. Non mais voilà, sur le gong, bam, victoire. Victoire de Benoît Caballero et de Thomas Winkler.
C'est quoi cette question?
C'est une question
très rugby, très rugby.
Si c'est zéro.
On n'est pas là pour chouiner. Alexis, je suis désolé. Yann Blanchard a été vraiment naze.
Zéro ce soir.
Mais c'est pas du tout grave. C'est pas du tout grave.
Tu sais, Alexis, un bon arbitre, c'est un arbitre qu'on ne voit pas. On m'a pas vu du jeu.
J'étais très bon.
Mais t'es bon depuis 2 ans que t'es là.
Franchement, je suis content que Caballero ait gagné pour une fois.
Mais vous savez quoi, Alexis, vous allez rester en ligne, on va vous récupérer et on va vous faire gagner, repartir quand même avec un ballon de rugby France Bleu.
Oui, d'accord, je vais le donner au fiston.
Bon, et ben voilà, et n'hésitez pas à rejouer, de toute façon, on est jamais loin. Merci à vous et bonne soirée.
Merci à vous et d'animer aussi bien l'émission.
Bon,
et
ben, merci.
Ah non, mais c'est pas David là, c'est Stéphane.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
La dernière ligne droite, l'occasion de revenir sur l'élimination de l'aviron bayonnais en Challenge Cup, défaite 33-15 à Édimbourg. Aucun regret pour Grégory Patin, le manager des Ciels et Blancs, qui effectivement indiquait que l'idée c'était effectivement de montrer un autre visage, de montrer que on était capable de jouer dans un grand stade, puisque c'est le reproche qu'ont eu les bayonnais il y a quelques jours après la défaite à Anoeta contre le RCT. Et vous en pensez quoi? Benoît Caballero. Eh oui.
Il savait même pas que Bayern jouait.
Si, j'ai vu le match en plus. Ouais. Aucun regret. Moi, je suis pas tellement d'accord parce que tu fais une bonne partie au Munster. Tu fais une bonne partie la semaine dernière, mais tu te mets dedans avec malheureusement un carton jaune qui te rapporte 14 points contre toi. Donc, tu fais quand même de bonnes prestations avec des jeunes joueurs qui se donnent à fond. Donc, aucun regret. Je suis pas sûr, mais
Yann.
Non, des regrets sur le score, oui, parce que en effet,
33-15,
ouais, 33-15, je pense que c'est pas mérité. Tant Bayonne était bien, Bayonne a joué au rugby. Après, des regrets de pas continuer dans cette compétition. J'ai envie de te dire pourquoi faire. Et puis quand on voit le résultat du lendemain, ça veut dire qu'il aurait fallu aller en Afrique du Sud.
Samedi, 13h30 à Durban. Ouais,
non, et puis tu renchaînes le top 14 l'année prochaine. On a pas de temps à perdre là-dessus. La semaine d'après.
Ça s'est pas dit encore, mais.
Et on a besoin de se sauver le plus rapidement possible. On n'a pas d'énergie à perdre sur cette compétition-là, mais le match est pour
mais,
moi.
Mais malgré tout.
Arrête.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es dans le coup à la 50e, juste avant la pause, cette pénalité à 15 mètres face au poteau, tu vas me chercher la touche.
Alors, je comprends toujours pas.
Et derrière, parce qu'il n'y avait pas de bonus à aller chercher. Et derrière, oui, moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des joueurs, les Line de Car, il y a Lestrade, Bastien Pouraï, qui s'y filent depuis le début, depuis exactement. Qu'ils sont là. Et qui peut-être vont plus jouer d'ici la fin de la saison. Et rien que pour ces joueurs-là, j'aurais bien aimé les voir un peu plus.
Ouais, je pense que dans tous les noms que tu as cités, ce sont des joueurs qui ont gagné des points. Il y a eu le retour de Nadir Mekdoud aussi qui a été très bon sur ce match. Donc s'ils ont gagné des points, ça veut dire qu'ils joueront d'ici la fin de la saison. Je suis pas du tout d'accord sur cette pénalité. On est là sur un match, certes pas amical, ça reste un 8e de challenge, mais tu es là justement pour jouer. Tu es juste là pour créer des choses que tu ne tenterais peut-être pas en top 14.
T'as tenté, je veux dire.
Les gens qui font le raccourci de dire oui, ça aurait fait 3 points de plus à la pause. Bon, en face, ils tentaient pas les pénalités non plus, en fait.
Non, mais
donc, c'est cette compétition.
Écoute, la Rochelle, on était bien contents qu'ils prennent pas les points.
Quand vous faites égalité au Munster, vous étiez presque champion d'Europe. Vous imaginez tout. Me dis pas que là, vous n'avez pas de regrets.
Mais non, pas de regrets du tout. Mais j'hallucine devant cette question et de me dire oui.
Non, effectivement, l'argument que tu évoques le top 14, c'est vrai que tu vas reprendre le top 14 avec un déplacement périlleux.
Tu gagnes contre
chez
Toulon,
le leader.
Tu gagnes contre Toulon.
C'est pas pareil.
Ce n'est pas pareil. Voilà. Je te dis oui, j'ai des regrets parce que on est quasiment sauvé, donc autant aller se chercher une petite aventure.
Là, en plus, la doublette, c'est pas évident. C'est Stade Français à Jambouin le 20 avril et la semaine d'après, tu reçois l'UBB.
Oui.
Et le bébé, enfin, qui fait un peu peur.
Donc, ça pas de temps à perdre en Afrique du Sud, avec 28 joueurs, avec les joueurs que tu as laissés ici à la maison, qui vont devoir s'entraîner sans leur coach. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai zéro regret. J'ai des regrets sur l'ampleur du score. J'aurais peut-être pas le même discours si on avait gagné contre Toulon, et j'aurais peut-être pas le même discours si c'était les Sharks aussi la semaine d'après. Si ça avait été une réception à Dogé, ben je te dis oui, j'ai des regrets de pas avoir un match de plus de face
finale. Les réceptions ailleurs qu'à Dogé, maintenant je pense qu'on va peut-être éviter.
Bon, si c'est pour être désagréable, tu restes dans ton émission du lundi, tu nous laisses tranquille le mardi, mercredi, jeudi.
Je pense merci. Que c'est plus trop pas l'étude pour l'instant.
Cette année non, si on avait été en demi peut-être, mais j'en sais rien. Mais non, donc j'ai zéro regret sur ce match, et j'étais même plutôt, j'avais le sourire d'avoir montré une belle image. C'est pas peine de me dire stop, si on doit déborder, on débordera.
Il est invivable.
J'étais content de.
C'est ça tous les mardis depuis un an.
D'avoir
montré. Faut le couper parce que si continue à parler, il dit à chaque fois n'importe quoi.
Des joueurs qui, selon toute vraisemblance, auront du temps de jeu d'ici la fin de la saison.
C'est tout ce qu'on espère. C'est tout ce qu'on espère évidemment pour ces joueurs.
Ils auraient pu l'avoir avant aussi.
Voilà, avec 100% rugby qui est terminé pour ce soir. Merci Yann, merci Kaba. Et vous retrouvez le podcast sur le site internet et les applications ici, et notamment l'interview de Patrick Nadal en première partie sur la figure d'André Boniface. Bonne soirée.
Pourrions que tu prennes un joueur d'avion.